En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Et donc, en effet, c'est à moi que revient la lourde tâche de clôturer cette première journée. Donc, on va rester dans la même thématique, hein, puisque je vais vous... mais sous un prisme un petit peu différent, c'est-à-dire que là, je vais vous parler du harcèlement et des violences à caractère sexuel dans les armées américaines. Donc, c'est-à-dire deux membres des forces armées sur d'autres membres des forces armées ou aussi vers l'extérieur, vers les civils. Donc, la question du harcèlement et des violences à caractère sexuel représente un enjeu pour de nombreuses démocraties occidentales, dont la France, et les États-Unis n'échappent pas à la règle. Ces questions y défrayent régulièrement la chronique depuis le début des années 90, et notamment avec un scandale en 1992, qu'on appelle le Tel Hook scandale, qui était un scandale qui... où à peu près une centaine de pilotes de l'aéronavale américaine avaient été accusés voilà, de harcèlement et d'agression sexuelle sur des personnels de la Navy, mais aussi sur des civils qui se trouvaient dans l'hôtel de cette convention. Donc il y a ce scandale, tout d'abord dans les années 90, mais il y a aussi un certain nombre d'affaires emblématiques qui secouèrent les trois académies militaires américaines au début des années 2000, qui vont vraiment être médiatisées et qui vont attirer l'attention sur ces problèmes-là. Donc ces questions, depuis la fin des années 90, depuis le début des années 2000, sont prises très au sérieux par le Department of Defense, qui lutte donc depuis plusieurs années contre ces comportements déviants, avec un succès assez mitigé, on va le voir. Alors, quand on parle de ces questions pour les armées américaines, il faut savoir qu'elles font une différence de prise en compte, de traitement et de suivi entre, d'une part, les cas de harcèlement sexuel, ce que l'on appelle en anglais le sexual harassment, qui n'implique, pour le cas, pas de violence physique, et d'autre part, les cas d'agression sexuelle, là on parle de sexual assault, qui se caractérise par un contact physique non désiré entre la victime et l'agresseur. Donc, du coup, pour lutter contre ces deux types de comportements, hein, qui sont donc traités de manière séparée la plupart du temps, le DOD a mis en place depuis plusieurs années des politiques, des stratégies différenciées, tout en se dotant au niveau central d'un certain nombre d'outils spécifiques. Alors, la question que je vais vous poser aujourd'hui, et à laquelle je vais essayer de répondre, c'est comment expliquer, alors qu'on est dans un pays, les États-Unis, où les rapports hommes-femmes sur le lieu de travail sont extrêmement codifiés, extrêmement normés, comment se fait-il que de tels comportements déviants perdurent, et ce, en dépit d'une politique volontariste qui est menée par le Department of Defense depuis près de 15 ans. Alors, je vais vous proposer un certain nombre d'hypothèses qui sont en trois groupes. Il y aura des hypothèses d'ordre conjoncturel, des hypothèses d'ordre culturel et enfin des hypothèses d'ordre institutionnel qui, d'après moi, peuvent être formulées afin d'expliquer ce phénomène. Alors, chacune de ces hypothèses prises séparément ne suffisent pas à expliquer les comportements, mais c'est bien la combinaison de ces différents facteurs qui, d'après moi, permettent de mieux comprendre pourquoi, au minimum, les chiffres restent stables, voire, pour certains cas, on va voir, continuent à augmenter. Quoi qu'il en soit, et ça, s'il y a une idée qui doit... que vous devez garder à l'issue de ce petit exposé, c'est pour moi, il y a vraiment la question du leadership qui est vraiment au cœur de cette question et notamment de la réponse qui doit être amenée à cette question. Alors, je vais donc... mon exposé va se diviser en trois parties. Une première partie, je vais vous faire un point de situation rapide sur le harcèlement sexuel dans un premier temps, puis sur les agressions. Dans un deuxième temps, on va voir aussi, on va balayer rapidement quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre, tant pour le harcèlement que pour les agressions sexuelles. Et enfin, on va arriver au cœur du sujet sur les hypothèses que je vais vous présenter, sur les facteurs explicatifs qui, d'après moi, peuvent justifier un petit peu cette permanence de ces comportements dans les armées américaines. Alors tout d'abord, on va aborder le harcèlement sexuel. Petit point de situation pour l'année fiscale 2013. Le dernier rapport date de mai 2014 et donc on a un point détaillé des plaintes qui ont été déposées pour cette année-là. Alors quand on parle d'année fiscale pour les États-Unis, il faut savoir que ça va donc pour l'année 2013 du 1er octobre de l'année 2012 jusqu'au 30 septembre de l'année 2013. Sur ces 12 mois, on décompte un total de 1366 plaintes qui ont été déposées pour l'ensemble du DOD, donc c'est-à-dire pour l'ensemble des armées, terre, air, mer, sachant que dans les armées américaines, le Marine Corps n'est pas une armée à part, mais dépend de la Navy. On parle bien aussi là de la composante d'actifs, de la composante réserve et de la composante de la garde nationale. Rapidement, vous voyez qu'il y a deux types de plaintes, hein, officielles et non officielles. Je reviendrai sur ces différences après, parce que C'est un des éléments aussi qui peut poser problème. On retrouve un petit peu la même distinction sous d'autres termes pour les agressions sexuelles. Et c'est ce que j'appellerais une fausse bonne idée, mais je vous expliquerai ça juste après. Alors, dans le cas d'une plainte non officielle, la plupart du temps, la plainte va se résoudre en fait par une discussion, médiation, en lien avec le commandement. À la date de la publication du rapport, dont je n'ai pas eu les chiffres depuis, 59% de ces 1366 plaintes avaient été jugées fondées. Alors, jugées fondées, ça veut dire simplement que cela peut amener à des poursuites, la poursuite des investigations. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est coupable, mais ça veut dire que la procédure se poursuit. Les plaignants sont en majorité des femmes, pour 84% des cas, mais ça veut dire quand même qu'il y a donc un petit peu moins de 15% des cas, des plaignants, qui sont des hommes. Sur 1416 plaignants, on trouve donc 1197 femmes et 211 hommes. Quel est le profil de la victime ? Alors, la victime est en majorité non officier et de grade subalterne, ce qui, d'un point de vue statistique, peut s'expliquer aussi, hein, vu que c'est là qu'on trouve le plus gros contingent, hein, puisque les militaires du rang et les sous-officiers sont en plus grand nombre. Mais c'est chez eux qu'on trouve donc le plus de victimes. Maintenant, quel est le profil de l'agresseur ? Alors, à l'inverse, bien sûr, pour le coup, mécaniquement, la grande majorité des harceleurs sont de sexe masculin, dans près de 94% des cas, même si dans quelques cas minoritaires, des femmes le sont aussi. Il faut savoir que c'est le plus souvent un collègue de travail, donc c'est dans la sphère proche, un collègue de travail de la victime, avec une plus importante prévalence dans les grades subalternes. Aucune catégorie de personnel n'est à l'abri, puisque en 2013, on voit ici, hop, est-ce qu'on voit la petite flèche ? Non, ici là, voilà. Vous avez le cas en officiel, en plainte officielle, vous avez le cas d'un officier général. Bon, sachant que la ligne en dessous, hein, en non officiel, on a 31 officiers généraux qui ont été accusés de harcèlement.
Il y a des femmes qui sont accusées de harcèlement sexuel par des hommes.
Oui.
Oui. Tout arrive.
Donc maintenant, on va parler des agressions sexuelles, pour le coup. Donc le Department of Defense définit donc le sexual assault comme tout contact sexuel intentionnel caractérisé par l'usage de la force, les menaces, l'intimidation ou l'abus d'autorité, ou lorsque la victime ne donne pas son accord ou ne peut le donner. Bon, généralement, c'est dans des cas de lorsque la victime est droguée ou lorsqu'elle est en état d'ébriété. La définition est donc assez englobante, puisqu'elle ne se limite pas à un type d'agression en particulier, mais elle s'applique à des faits qui vont du simple contact physique à caractère sexuel, toucher une poitrine, toucher les fesses, jusqu'au viol. Cela concerne les actes, mais aussi toute tentative de passer à l'acte. Là, les chiffres que vous allez voir ne concernent pas les agressions d'un membre des armées contre ses enfants ou contre son conjoint, parce que là, ils ont un programme spécifique qui s'appelle le Family Advocacy Program, mais je ne vais pas en parler. Donc, le Department of Defense, de la même manière que pour les questions de harcèlement, propose deux options aux victimes d'agressions sexuelles pour déposer plainte, ce qu'on appelle le Restricted Reporting, qui permet aux victimes d'avoir un accès confidentiel aux soins médicaux, un accès aussi confidentiel aux services de soutien aux victimes, sans que vraiment une enquête officielle ne se déclenche, contrairement au Unrestricted Reporting, qui lui enclenche la machine bureaucratique américaine, qui fait que on a un suivi complet. Mais donc, à l'inverse, pour les restricted reporting, il n'y a aucun suivi possible de la procédure, même pour les membres du Congrès. Et là, c'est une critique assez récurrente qui revient et qui fait que, en fait, il y a tout un pan de ces plaintes qui ne sont pas suivies et pour lesquelles on n'a aucune surveillance possible. Alors, pour l'année fiscale 2014, il ressort, et donc là, vous le voyez en fait sur le mouvement général, sur le graphique, qu'il y a une augmentation des plaintes, et notamment très nette entre l'année 2012 et l'année 2013, puisqu'on a eu une augmentation de 50%. Entre 2013 et 2014, on a eu une augmentation de 11%. Cela représente pour 2014 un taux de 4 victimes pour 1000 membres des forces armées. Pour 2013, ce chiffre était de 3,4 pour 1000. Alors, néanmoins, il faut rapporter ces chiffres au nombre global au nombre total de militaires américains. Donc, si on rapporter au nombre total de militaires américains en activité, pour le coup, hein, non, là on est uniquement sur la composante d'active, qui était estimée en 2013 à 1 300 000, ce chiffre de 6 131 plaintes peut paraître très faible. Mais néanmoins, il ne reflèterait pas nécessairement le nombre d'agressions qui ont eu lieu en 2014. En effet, si le Department of Defense se base sur les études nationales civiles américaines, qui montrent que dans le secteur civil, seule une fraction minime des victimes d'agressions sexuelles porterait plainte. Et donc, vu qu'il y a un comportement miroir entre la population civile et la population militaire, le DOD, le Department of Defense, estime que sur les 8 dernières années, en moyenne, c'est un petit peu moins que 15% des victimes qui auraient rendu compte de leur agression à une autorité militaire. Ceci étant dit, le pourcentage de victimes portant plainte serait, pour l'année 2014, vous le voyez à droite ici, d'à peu près 25%. C'est-à-dire que sur 4768, on a eu en 2014 4768 plaintes. Le Department of Defense estime que uniquement 25% d'entre eux ont porté plainte, enfin que 25% des personnes agressées ont porté plainte, donc le chiffre réel d'agression serait de 18 900, en baisse par rapport au chiffre qui était estimé en 2012, qui est juste à gauche, si j'y arrive, voilà, qui était de 26 000, puisque c'était les 2828 plaintes ne représentaient que 11% des personnes potentiellement agressées. Voilà. D'après le discours actuel du Department of Defense, on assisterait en fait à une diminution du nombre de victimes, bien que les plaintes augmentent.
Excusez-moi, je ne comprends pas comment ils arrivent à calculer les 11%, 25%.
Alors là, en fait, c'est une bonne question, parce que ça, ce n'est pas explicité dans le rapport. C'est par rapport aux civils. Il y a une étude.
C'est en comparaison avec
oui,
plaintes,
oui.
Ils font des probabilités.
Voilà, c'est en miroir. Donc c'est pour ça que. C'est pour ça qu'en fait, cet argumentaire du Department of Defense peut paraître assez spécieux. C'est d'ailleurs quelque chose qui a beaucoup de mal à passer auprès du Congrès, qui régulièrement attaque le Department of Defense là-dessus, parce qu'ils disent, vous nous dites qu'il y a moins de victimes, mais en fait, les plaintes augmentent. Bon, en fait, le Department of Defense répond, si les plaintes augmentent, c'est qu'en fait, les gens ont plus confiance dans le système, donc ils vont plus facilement porter plainte, et c'est le fruit de notre travail depuis 15 ans. Bon, c'est un argument qui peut être, à juste titre, je pense, considéré comme un peu bancal. Mais bon, c'est actuellement le discours du Department of Defense. Alors, quelles sont donc les stratégies qui sont mises en œuvre? Donc, je vous ai bien dit, ce sont des stratégies qui sont différenciées, sauf un cas particulier qu'on va voir. Si le Department of Defense est doté de politiques globales pour lutter contre, d'une part, le harcèlement sexuel et, d'autre part, les violences à caractère sexuel, il n'existe cependant pas de programme d'action interarmée en tant que tel. En effet, aux États-Unis, afin de respecter les spécificités, les cultures et les prérogatives des trois armées, chacune d'elles a développé ses propres programmes en déclinant à son niveau les directives qui sont données au niveau central, donc au niveau du Pentagone. Alors, en ce qui concerne le harcèlement, il y a un bureau qui est en place depuis 1995, donc juste après le fameux scandale dont je vous parlais de 1992, hein, qui s'appelle le Department of Defense Military Equal Opportunity Office, qui se charge au sein du Department of Defense de lutter contre les comportements discriminatoires. Et le harcèlement étant un comportement discriminatoire, il a entre ses multiples casquettes celui de traiter cette question-là. Donc pour cela, il s'assure de la mise en œuvre d'une directive de référence dont je vous passe le numéro, qui met en avant trois axes d'effort. Le premier, cette directive souligne l'importance de la chaîne de commandement. Donc c'est vraiment la chaîne de commandement qui est l'acteur principal et préféré pour identifier et corriger les pratiques discriminatoires. Cette directive demande ensuite aux différentes armées de faire un effort d'information auprès de leur personnel sur la politique de lutte contre de tels comportements. L'objectif est de faire de la prévention pour sensibiliser les membres des forces armées à ces comportements et à ces problèmes. Enfin, elle mandate la mise en place de procédures par armée avec un calendrier, tout simplement pour éviter que les procédures ne durent des années et gagner en efficacité. Alors, point particulier. Même si le dernier rapport en la matière, donc le rapport qui traitait de harcèlement, fait bien le lien entre harcèlement et agression sexuelle, Ces deux problématiques continuent en fait à être traitées séparément par la plupart des armées, sauf l'US Army et, paradoxalement aussi, les trois académies militaires. Alors qu'en fait, et c'est souligné dans ce fameux rapport, à l'époque, donc pour le rapport de 2013, près de donc 30% des femmes et 19% des hommes du Department of Defense qui ont subi des violences à caractère sexuel en 2012 avaient été auparavant harcelés sexuellement par leur agresseur avant que celui-ci ne passe à l'acte. Donc on voit bien qu'il y a bien une progressivité des comportements. Si la personne n'est pas neutralisée au moment où, c'est, où elle est juste au stade de harcèlement, si on ne l'arrête pas, elle va continuer en fait jusqu'au stade de l'agression sexuelle. Du coup, l'US Army, elle, a pris en compte ce problème-là, cette question de progressivité des comportements, et elle s'est dotée d'un programme de lutte qui, pour le coup, englobe ces deux comportements. Donc c'est le programme SHARP, en anglais, qui veut dire donc, Sexual Harassment, Assault Response and Prevention Program. Et ce programme comprend en fait deux volets, un de prévention-formation et un de prise en compte des plaintes et d'accompagnement des victimes. Donc un volet amont, un volet aval. Alors rapidement, en ce qui concerne ce programme, donc l'US Army a développé une campagne qui s'appelle I Am Strong, hein, je suis fort, avec I Am qui est un petit acronyme pour Intervene, Act et Motivate, qui insiste sur la nécessité de prévenir de comportements. Et ce programme insiste notamment sur le fait que chacun, à tous les niveaux, a un rôle à jouer. Alors, comment est-ce qu'ils le mettent en œuvre ? En fait, pour toute formation de plus de 8 semaines, et ce, dès l'école de formation initiale, vous avez un module de prévention sur le harcèlement et les agressions sexuelles. Donc, ils sont abordés les tactiques des harceleurs-agresseurs, la manière d'intervenir pour empêcher de tels actes, au cas où l'on serait victime ou témoin de tels comportements. Là-dessus se rajoute, pour tous les militaires et personnels civils de l'US Army, chaque année, une séance de sensibilisation obligatoire, qui est composée d'une séance de 3 heures en face-à-face. Alors là, bien sûr, c'est fait à l'américaine, donc vous avez un kit qui est un kit de formation avec deux vidéos, avec des ce qui s'appelle Soldier Training and Amateur Night, avec des cas concrets, ainsi qu'un module d'information à suivre à distance. Vous devez ce qui s'appelle Team Band et que vous devez faire, qui dure, je crois, une heure, et vous devez valider votre module. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir une remontrance. Voilà. En parallèle, l'US Army a aussi créé ce qu'on appelle des correspondants Sexual Harassment, Sexual Assault dans les unités. Donc, dans chaque unité américaine de l'US Army, maintenant, vous avez un correspondant qui est là pour conseiller le commandement pour aider à prévenir ce type de comportement, mais aussi de référent lorsqu'un cas de harcèlement ou d'agression sexuelle se déclenche. Donc, ils suivent une formation de 80 heures avec une association civile qui valide leur formation. Point particulier aussi, parce qu'il faut savoir que dans les armées américaines, contrairement à ce qui se fait en France, les membres des forces armées sont jugés par la justice militaire. Il existe un code de justice militaire aux États-Unis. Donc, ils ont des enquêteurs. Et ces enquêteurs, parce que maintenant, ils ont créé ce qu'ils appellent les Special Victims Units, ont des formations particulières. Pareil, de à peu près 80 heures. Enfin, en ce qui concerne la prise en compte de la plainte et l'accompagnement des victimes, l'armée de terre américaine a mis en place un site sur lequel peut trouver tous les renseignements nécessaires. Il y a un petit guide SHARP qui vous explique en fait tout ce que vous pouvez faire, à qui vous devez vous adresser, auprès de qui vous pouvez porter plainte. Voilà. En ce qui concerne donc la stratégie mise en œuvre au niveau des agressions sexuelles, donc là au niveau central, puisqu'on a déjà parlé, j'ai déjà évoqué le cas de ce programme mixte de l'US Army. Alors là, ça a été mis en place en décalé, parce que vous avez vu tout à l'heure le fameux bureau qui s'occupe de harcèlement sexuel a été mis en place en 1995. Là, le bureau qui s'occupe des agressions sexuelles lui a été mis en place 10 ans plus tard, en 2005. Donc lui, ce bureau, le Sexual Assault Prevention and Response Office, est chargé de développer une stratégie de prévention, des politiques et des procédures afin de faciliter le dépôt de plaintes, améliorer les soins et les prises en charge des victimes. Et il demande aux armées de faire l'effort dans 5 domaines. Rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc sur la prévention, sur l'enquête, sur la responsabilisation de l'agresseur, et ça, c'est encore un point qui est largement perfectible, l'assistance aux victimes et notamment l'évaluation des programmes. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour On va rester dans les temps. Alors maintenant, on va aborder un peu le cœur du sujet, donc par rapport aux hypothèses que je vais vous proposer, qui, d'après moi, peuvent expliquer pourquoi de tels comportements continuent à perdurer. Alors le premier facteur, d'après moi, est sur des questions d'ordre conjoncturel, et notamment le contexte opérationnel de ces 15 dernières années peut contribuer en partie à expliquer ces comportements déviants. Alors, il n'a échappé à personne que les Américaines ont été en guerre et continuent encore à l'être, mais à une échelle beaucoup moindre, pendant une dizaine d'années, pendant presque 15 ans, en Irak et en Afghanistan. Et les armées américaines, et notamment l'US Army et le Marine Corps, puisque c'est eux qui ont fourni les gros bataillons sur ces deux théâtres d'opération, sont sortis littéralement usés de ces conflits. Et cette usure est perceptible dès le début, au bout de 2-3 ans, dès 2004. Et ce d'autant plus que les soldats américains, notamment les GI et les Marines, ont enchaîné des rotations sur ces deux théâtres d'opération pour de longues périodes, pour des périodes qui pouvaient aller jusqu'à 15 mois, 12 mois et au minimum 9 mois. Sachant qu'en France, les opérations extérieures, on était en normalement à 4 mois, on fait au maximum 6 mois. Ça, ils ne l'ont pas fait qu'une fois. Il y en a eu un grand nombre qui ont multiplié 2, 3, voire 4 fois. Donc tout ça, ça vous laisse un moment, il y a une certaine usure qui se met en place. Le problème, c'est que pour avoir de telles rotations, avoir de tels flux, il faut avoir un flux de recrutement qui soit conséquent. Et du coup, les armées américaines n'eurent d'autre solution que de baisser leurs critères de recrutement. Il faut savoir qu'entre 2004 et 2009, 20% des nouvelles recrues de l'US Army ont bénéficié d'une dérogation pour pouvoir s'engager. Alors, des dérogations, il y avait différents types. Des dérogations d'ordre médical, et notamment aussi des dérogations pour des questions criminelles. Ça veut dire que 20% de ces personnes auraient été auparavant disqualifiées quelques années plus tôt. Elles n'auraient jamais eu leur place au sein de l'armée américaine. Du coup, je vous ai juste pris un petit extrait d'un ouvrage, The Good Soldiers, de David Finkel, qui, en fait, c'est un ouvrage dans lequel il suit un bataillon qui, en 2005-2006, a été en Afghanistan, en Irak, pardon. Et on voit bien, dans la dernière phrase, en 2006, l'année où le bataillon 216 a reçu la plupart de ses soldats, cette année-là, 15% des recrues de l'armée avaient bénéficié d'une dérogation par rapport à leur casier judiciaire. Voilà. Alors, on sait qu'on ne fait pas la guerre avec des enfants de cœur, mais néanmoins, après, ces personnes-là, il faut les gérer. Voilà. Et dans le livre, il insiste bien sur le fait que c'était un souci permanent du commandant de bataillon. Alors, du coup, si cette baisse des critères de recrutement a répondu à court terme aux besoins opérationnels, ceci donc a posé à moyen et à court terme le problème de maintenir dans les rangs une population à risque avec des problèmes d'addiction et des problèmes d'activité criminelle dans le passé, agression, vol, viol. Voilà. Le deuxième facteur conjoncturel, d'ordre conjoncturel, est pour moi ce qu'on peut appeler la perte de leadership en garnison. En fait, bon là, je vais enfoncer un petit peu des portes ouvertes, mais pour qu'une unité fonctionne correctement, celle-ci a besoin, entre autres choses, de bon ordre et de discipline. C'est bête à dire, mais bon, c'est bon parfois de le rappeler. Or, le rythme opérationnel soutenu de ces dernières années, combiné aussi avec le passage à la modularité des unités au début des années 2000, parce qu'il faut savoir qu'en même temps, en même temps que les armées américaines étaient en train de se transformer pour passer à la modularité, c'est-à-dire que vous pouviez très bien... Voilà, les unités étaient constituées de briques qui étaient un petit peu ad hoc en fonction des besoins. Donc ça voulait dire concrètement... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ça crée un découplage entre les liens de commandement en garnison et les liens de commandement en opération. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir en opération avec des soldats que vous ne connaissez pas. Bon, ce qui rend difficile le suivi efficace de ces subordonnés. Du coup, tout ça a rendu moins lisibles les relations de commandement et notamment les responsabilités qui vont avec. Et on pourrait dire qu'un certain art du commandement en garnison a pu, à un moment donné, disparaître. Et notamment des pratiques régulières qui assuraient le bon ordre de la discipline seraient tombées en désuétude à ce moment-là. Bon, là, ils ont après fait un effort pour les remettre en œuvre, mais c'est des choses toutes bêtes, mais ce sont par exemple les revues de chambre inopinées, les descentes antidrogues, les tests urinaires surprises qui, depuis longtemps, sont pratiqués. Bon, nous, on ne connaît pas ça dans l'armée française, mais c'est des choses qui sont pratiquées en fait, dans les armées américaines. Les rassemblements réguliers, les cérémonies, toutes ces petites traditions ou cultures d'institutions qui permettent en fait, de bien cadrer la troupe et de connaître ses soldats. Au-delà des questions d'ordre conjoncturel, plusieurs facteurs culturels pourraient aussi, d'après moi, expliquer la prévalence de ces comportements. Et le premier d'entre eux est le fait qu'il existe aux États-Unis, j'en ai déjà parlé, un cadre très rigide des relations hommes-femmes sur le lieu de travail. Et ces relations sont normées, codifiées, et tout manquement est normalement sanctionné. Certains comportements qui paraissent totalement anodins en France ou en Europe de manière générale seraient totalement malvenus de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous en parle par expérience, parce que j'ai eu certains comportements comme j'ai vécu 4 ans aux États-Unis avec les Américains, il y a des choses que je fais ici tout à fait normalement que je ne me permettais pas côté américain, sinon je me serais retrouvé avec une plainte. Donc voilà. Mais c'est des choses qui paraissent totalement banales ici et qui là-bas peuvent être très mal.
Qu'est-ce que vous avez?
Ah non, mais justement, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais c'est des choses que vous faites. C'est des choses que vous faites avec vos. C'est des choses que vous faites avec même ici, je suppose, dans le sein de l'université avec vos collègues. Mais par exemple, vous ne pouvez pas discuter avec une femme dans un bureau, porte fermée. Il faut faire attention, il ne faut pas être trop proche de la personne. Voilà, c'est des choses qui ici, c'est plutôt l'inverse. Quoi. Plus vous êtes proche, si vous connaissez un peu la personne, vous allez un petit peu la toucher. Là-bas, il ne faut surtout pas faire ça. Voilà. Donc c'est parce que j'ai été stagiaire là-bas aussi. Une des premières choses parce qu'on avait un petit stage d'intégration pour officiers étrangers, une des premières choses qu'on faisait, c'est de nous expliquer ce genre de choses. Faites attention à ne pas avoir de comportement ambigu avec les personnes de l'autre sexe. Voilà, donc, quand vous arrivez d'Europe, ça peut vous paraître, la première fois qu'on vous dit ça, ça vous paraît un petit peu étrange, mais c'est néanmoins important de le souligner. Voilà. Alors du coup, on a ce cadre qui est extrêmement contraignant, et du coup, il peut paraître paradoxal que ces comportements puissent naître au sein de cette institution. Mais en fait, je pense que il y a une sorte de réaction chez certains. Ce cadre qui est étouffant va générer ces comportements déviants en réaction, surtout lorsque vous rajoutez à l'équation la fatigue, le stress, l'usure, l'isolement et l'alcool. Le second facteur culturel, pour moi, c'est lié à la place des femmes dans les armées américaines. Alors en fait, si celles-ci sont présentes dans les armées depuis plusieurs décennies déjà, il aura fallu quand même attendre le 3 décembre 2015, donc c'était il y a un mois, pour que les derniers obstacles à leur intégration complète, notamment dans des unités de combat, soient levés. Alors, ceci montre un certain frein culturel à la présence des femmes dans les armées, ce qui aurait pu peut-être contribuer à entretenir la culture machiste de certaines unités, notamment les unités les plus uniquement masculines. Voilà. Bon, après, il ne faut pas non plus généraliser, hein, mais je pense qu'il y a quand même un frein culturel derrière ça. Il suffit de regarder la multiplication des réactions négatives qui a justement généré cette décision du 3 décembre 2015 d'ouvrir aux femmes. Et vous avez des personnes qui se sont ouvertes en employant des arguments qui étaient extrêmement passéistes, des arguments qu'on voyait dans les années 70. Donc je pense qu'il y a encore un effort sur les mentalités pour faire évoluer les mentalités dans les armées américaines. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le poids de la culture institutionnelle qui veut qu'un soldat ne doit pas se plaindre. En dépit des efforts faits ces dernières années, parce qu'il y a quand même une conscience du fait qu'il y a une stigmatisation des personnes qui vont chercher de l'aide dans les armées américaines, cette stigmatisation existe encore. Et ceci est avant tout un problème d'ordre culturel, alors, que l'on retrouve non seulement dans les armées américaines, mais aussi, je pense, de manière plus générale, dans la société américaine dans son ensemble. Il ne faut pas oublier que le darwinisme social reste encore aujourd'hui un fondement de la société américaine. Un soldat américain aura tendance à considérer encore aujourd'hui, quel que soit son statut, que le fait de s'adresser à un service spécialisé va avoir un impact sur sa carrière, sur sa position sociale, sur la manière dont il va être perçu par ses pairs. Quelqu'un qui demande de l'aide sera encore la plupart du temps considéré comme un faible. Et du coup, ça peut avoir tendance à freiner les victimes à porter plainte et donc, à l'inverse, encourager les harceleurs à continuer. Dans le même ordre d'idée, parce que c'est un petit peu lié, et c'est très bien souligné d'ailleurs dans un petit film documentaire que je vous conseille si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus, ça s'appelle The Invisible War, c'est un film documentaire de 2012 qui aborde cette question de manière très pertinente. La dernière chose qu'un commandant d'unité veut avoir à faire, c'est prendre son téléphone et appeler son supérieur hiérarchique dans les armées américaines pour lui dire « j'ai un problème de harcèlement ou d'agression sexuelle dans mon unité ». Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est souvent vu comme une faute de commandement. Donc, c'est-à-dire que ça va avoir un impact sur la carrière de la personne à qui l'on porte, à qui l'on, la victime s'adresse. Voilà. Donc ça aussi, ça peut freiner, ça peut avoir tendance à freiner les victimes. Dernier facteur explicatif, donc c'est des facteurs plutôt d'ordre institutionnel. Alors, en premier lieu, j'en ai déjà parlé. Il m'apparaît dommage que le Department of Defense se refuse encore au niveau central à aborder le problème dans sa globalité. Parce que je vous l'ai expliqué, donc, il y a bien une décorrélation, sauf pour l'US Army qui a fait le choix de prendre le problème dans sa globalité, il y a bien une décorrélation des deux problèmes. Et alors qu'en fait, justement, et là je reviens sur ce film documentaire, un des premiers cas qui est exposé dans ce film, c'est le cas d'une ancienne Coast Guard, Cory Kioka, qui était dans une petite unité près des grands lacs américains. C'était la seule femme dans son unité. Et en fait, elle a d'abord été harcelée par son supérieur hiérarchique. Elle s'en est ouverte auprès de sa hiérarchie, qui n'a rien fait. Et en fait, ça a progressé, jusqu'au moment où il l'a battue, parce qu'actuellement, elle a encore... Il l'a montré justement aussi pour ça, parce qu'elle avait un gros problème au niveau de la mâchoire, et ça a été jusqu'au viol. Voilà, jusqu'au moment où elle a quitté l'armée. Mais avec le problème de... avec d'autres cas où on voit ils ont la difficulté de prouver le harcèlement, de prouver l'agression, et de voir même que ça se retourne contre la personne. Voilà. Avec un cas notamment qui est un petit peu hallucinant, où vous voyez une jeune femme qui n'était pas mariée, qui a été violée par un homme marié, et en fait c'est elle qui a été accusée, dans le cadre avec le code de military justice, d'adultère. Voilà. Autre point qui me semble important de souligner, c'est qu'en dépit du fait que les armées américaines affichent dans le discours une volonté farouche de faire cesser ce type d'agissement, elles n'ont en fait pas toujours pris les mesures qui s'imposaient en termes de réorganisation de leurs procédures, en raison vraiment d'une résistance institutionnelle très claire au changement. Et ça concerne notamment la procédure mise en œuvre pour le traitement des plaintes, qui maintient comme voie prépondérante et prioritaire la voie commandement, qui pourrait manquer en fait d'impartialité. Et dans le film, ils avancent le chiffre de 33%, donc en 2012, le chiffre de 33% de victimes d'agressions sexuelles dans les armées qui font le choix de ne pas rendre compte à leur hiérarchie du fait que la personne qu'elles doivent aller voir pour se plaindre est un ami de leur agresseur. Donc, du coup, le besoin de mettre en place une structure d'enquête indépendante, impartiale, avec des personnels formés et régulièrement soulignés par les associations de défense des victimes. Et par certains membres du Congrès, parce que bien sûr, le problème attire régulièrement l'attention du Congrès, puisque chaque année, en théorie, le Department of Defense doit faire envoie des rapports sur le harcèlement sexuel et sur les cas de violence sexuelle aux deux chambres des Congrès. Aux deux chambres des Congrès, du Congrès, pardon. Un membre du Congrès particulièrement a essayé de faire avancer les choses, c'est la sénatrice Kirsten Gillibrand, qui est une démocrate de New York. En fait, c'est la personne qui a remplacé Hillary Clinton, qui a repris le siège de Hillary Clinton au Sénat. Elle s'est intéressée de près à ce sujet, a milité justement pour que les agressions sexuelles dans les armées soient jugées en dehors de la chaîne hiérarchique, que en fait tout soit jugé directement par le corps du Judge Advocate General, qui est un corps à part dans les armées. C'est eux qui se chargent de la justice. Et en dépit de ses efforts, parce qu'elle avait fait une proposition de loi qui s'appelait le Military Justice Improvement Act, ce projet de loi en fait a été bloqué au Sénat à 5 voix près en juin 2014. Autre chose qu'il faudrait sûrement améliorer, et là c'est notamment par rapport à par rapport au fait de punir les harceleurs et les agresseurs. Trop de harceleurs, trop de agresseurs encore ne sont pas condamnés du fait des méandres bureaucratiques du système. Ce qui est intéressant de voir dans le rapport, c'est que, donc là je vais très rapidement, 3648 personnes qui ont été accusées d'agression en 2014. Seulement 2625 de ces plaintes, de ces personnes potentiellement harceleurs ou agresseurs, seront jugées fondées. Donc déjà vous écrémez. Donc ça veut dire qu'il y a 2625 affaires qui vont être, procédures qui vont continuer. Sur ces 2625, et là je vous le fais très court, vous avez 316 personnes qui furent jugées coupables et emprisonnées. 316 par rapport à 3648. Avec un certain nombre avec plein de cas où en fait ce sont des mesures administratives, de simples amendes qui sont décidées. Donc en fait, tout ça peut générer la perception d'une certaine impunité. À l'inverse, lorsque certaines mesures ont été votées, elles ne sont pas toujours de portée suffisante. Et notamment, une des mesures qui avait été mise en avant pour régler ce problème de par rapport aux procédures et tout ça, c'était de mandater le corps de l'inspection générale aux États-Unis pour qu'il surveille que les procédures soient bien respectées et que le droit des victimes soit respecté. En fait, en théorie, ils doivent le faire, mais dans la pratique, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont ni le temps ni les moyens, ils ont d'autres priorités. Enfin, et là, c'est peut-être plus grave, l'institution semble avoir pris son parti de cet état de fait, notamment pour les agressions sexuelles. De toute façon, c'est une sorte de bruit de fond. Voilà, ce sont des chiffres qui sont normaux. Et ça, c'est un discours qui ne passe pas du tout auprès du Congrès. Voilà, les membres du Congrès sont chaque... Mais bon, ça fait 15 ans, ça fait une dizaine d'années que ça dure. Voilà, donc les choses mettent beaucoup de temps à changer. Voilà, pour terminer, donc je pense qu'il il faut cependant pas être naïf. Si de tels comportements déviants existeront toujours, parce que voilà, c'est une communauté, dans une communauté d'hommes et de femmes, vous avez forcément toujours un pourcentage, même minime, de personnes qui vont être amenées à faire des comportements déviants. Il est cependant sûrement possible pour les armées américaines de les réduire au minimum et de neutraliser les harceleurs et les agresseurs de manière plus efficace qu'aujourd'hui. Alors pour ce faire, je pense que vous l'aurez compris déjà, il me paraît important que le Department of Defense aborde enfin le problème dans sa globalité, à l'instar de ce que fait l'US Army. Ça permettrait ainsi une concentration des efforts et une économie des moyens avec un gain en efficacité. Je pense aussi qu'il devrait, et ça il y a beaucoup de personnes qui militent en ce sens, repenser complètement la procédure des plaintes, en acceptant la mise en place d'un système impartial et indépendant, détaché de la chaîne de commandement, parce que le système actuel permet encore à trop de personnes, de harceleurs ou d'agresseurs, de passer au travers des mailles du filet. Quoi qu'il en soit, et ça, je pense que c'est peut-être l'idée principale qu'il faudra retenir, si vous en retenez qu'une, c'est que le leadership reste et restera au cœur de la solution du problème. C'est en effet le leadership qui, tant au niveau local qu'au niveau central, a la capacité, d'une part, de prévenir ces comportements, en favorisant la mise en place d'un environnement de travail qui est sain et sûr pour tous, mais aussi en assurant que les gens, que les personnes qui font ce type de comportement soient punies. Dans la plupart des cas, quand on regarde, et ça finalement on le voit bien dans ce film aussi, ces questions de harcèlement et d'agression sont le fruit d'un échec du leadership qui soit n'a pas pris les mesures préventives ou les mesures punitives adéquates afin de prévenir ou de mettre fin à ces comportements. Et donc tout ceci passe par la connaissance des hommes et des femmes que l'on commande et par la prise en compte de ses responsabilités de chef à quelque niveau que l'on soit.